Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans, et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
En tout cas, qu'on peut quand même essayer de se donner les moyens d'accomplir ce qui nous fait rêver et que parfois on se les donne pas assez. Dans mon cas, par exemple, j'aurais beaucoup aimé avoir directement la confiance nécessaire pour me lancer dans les études qui me plaisent. Ou j'aurais beaucoup aimé qu'on m'explique je peux même essayer d'avoir un concours. C'est comme si j'avais toujours eu peur que de toute façon de louper le truc et que de toute façon j'avais pas les capacités, donc j'y allais même pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas assez à l'école.
Est-ce qu'on a plus de mal à se projeter dans l'avenir que nos parents quand ils avaient notre âge ? Qu'est-ce que c'est que de grandir au 21e siècle et d'y trouver sa place ? Et l'écologie, l'économie, la politique dans tout ça ? Salomé Sacquet a 26 ans et rend honneur à son côté piquant de petite fille curieuse en allant titiller les grands de ce monde. Elle n'a pas peur d'y aller franco, de dire les choses et de pointer les bugs d'une société qui bouge trop vite. Pour ça, pour sa différence et son audace, on l'a découragée, critiquée, infantilisée. Autant de freins qui l'ont poussé à poursuivre ses combats à travers le journalisme. Aujourd'hui, c'est la première fois que Salomé se confie dans un épisode de podcast, et derrière son apparente assurance, je vous assure que l'humilité prend le dessus. Elle se remet toujours en question, doute beaucoup, fait de son insatisfaction une jolie qualité, mais continue sur son chemin pour éclairer davantage les inégalités de ce monde.
T'as quel âge déjà ?
23.
Putain, non mais c'est ouf, hein ? T'es déter, quoi. 23, t'as écrit un bouquin, t'as créé un podcast. Moi, 23, j'étais pas comme ça.
Hein. Bon, on parlait de où tu étais à 23 ans.
Eh ben, allez.
Let's go.
C'est parti.
Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Enfin, t'accueillir. On est dans une cour en bas des studios de chez Blast.
Désolée, petit changement de dernière minute.
Salomé, tu es une méga journaliste économique et politique, surtout présente donc aux médias en ligne Blast.
C'est ça.
Et j'ai fouillé un petit peu sur toi pour préparer cette interview. Et en fait, j'ai pas trouvé d'interview sur toi. T'as jamais fait de podcast. Il y a pas d'article sur vraiment ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, etc. Je me suis dit, waouh, ça va être une grande première.
Effectivement. J'ai jamais donné d'interview. Ça me fait bizarre d'ailleurs.
Bah, du coup, écoute, on va revenir sur ton enfance. Et la question que je pose à tous mes invités, c'est qui étais-tu quand tu avais 7 ans ?
Bah, quand j'avais 7 ans, j'étais déjà. Je dirais que j'étais faite pour être journaliste parce que j'étais vraiment une fouille merde. Je pense qu'on peut vraiment dire ça. Non, mais vraiment.
Tu posais des questions tout le temps.
Je posais tout le temps des questions. Je pense que j'étais un peu aussi madame je sais tout. Donc je devais être assez insupportable, surtout pour les adultes. Et j'écoutais toujours aux portes. J'essayais toujours de comprendre ce qui se passait. Mais à un point où c'était juste chiant, quoi. Enfin, c'est la blague, moi, dans ma famille, mes parents, ça les faisait rire, parce que j'étais toujours en train d'écouter, de mêler des affaires des adultes. Et puis, j'étais assez impertinente.
Dans quel sens ?
Bah, je répondais aux adultes, je leur disais oui, mais moi, j'ai vu ça et je suis pas d'accord. J'étais chiante, franchement.
Par rapport aux jeunes de ton âge, tu te sentais comment ?
J'étais plutôt bien intégrée, j'ai jamais été victime de harcèlement ou quoi que ce soit. J'étais pas dans les populaires ni dans les harcelés, j'étais un peu au milieu, ça se passait plus. Franchement, j'avais plein d'amis, ça se passait bien.
Et quelles études t'as entrepris de faire du coup ? Après le bac, tu t'es directement dirigée vers le journalisme. Pour toi, c'était évident de faire du journalisme ?
Ah, pas du tout. Et c'est ça qui est fou, c'est que j'avais toujours été très attirée par le journalisme. J'avais vraiment le fantasme de la journaliste de guerre, un peu à la Blood Diamond. Je ne sais pas si tu vois ce film où il y a Jennifer Connelly.
Non.
C'est un film avec Leonardo DiCaprio, grand classique, où dedans il y a une journaliste de guerre et je la trouvais trop stylée. Et en réalité, le journalisme ne se passe pas du tout comme dans ce film, mais à l'époque, je fantasmais un peu là-dessus. Et en fait, je me suis juste dit que... C'est même pas que je me suis dit, c'est que pour moi, c'était impossible de devenir journaliste parce que je viens d'un milieu plutôt modeste et la question ne se posait même pas. Donc en fait, j'ai juste... pris les études qui venaient, en l'occurrence c'était une prépa littéraire, je savais pas ce que c'était une prépa, je savais pas ce que c'était que l'école normale supérieure, j'ai juste vu sur post-bac, c'est vraiment passé comme ça, des matières qui m'intéressaient dans une ville qui m'intéressait, et j'ai cliqué dessus et j'ai été prise, et du coup je me suis préparée pendant 2 ans à un concours qui est celui de l'école normale supérieure, en n'ayant même aucune idée en arrivant qu'on allait préparer un concours. Ça s'est vraiment passé comme ça, je me souviens. Ils avaient envoyé des listes de livres à lire pendant l'été, puisque c'est donc Hippocagne-Cagne, c'est assez exigeant. Et moi, je pensais même pas qu'ils étaient sérieux sur le fait qu'il fallait lire tous ces bouquins, donc je les ai même pas lus. Évidemment, je me suis plantée au test en arrivant. et vraiment, j'ai compris là-bas que j'avais pas du tout le même niveau que les autres élèves. Donc pour moi, devenir journaliste, encore plus impossible. Et après, je suis allée finalement, donc j'ai fini ma prépa quand même, et je suis allée en sciences politiques, puis en droit, mais un peu parce que c'était la voie de la raison et que c'était là où il y avait des bons métiers et que le journalisme, c'était un métier instable. Enfin, vraiment, jusqu'à la dernière minute, je me disais que je n'allais pas devenir journaliste. Donc j'ai même fini un master 2 de droit international en me disant que je n'allais pas être journaliste, jusqu'à ce que j'intègre, alors déjà dans mon master 1, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais je l'ai fait en Erasmus en Espagne. Ouais. Là, j'ai rencontré un journaliste, j'ai commencé à faire des reportages réellement, j'ai fait un stage de journalisme, donc à la Radio Nationale en Espagne.
Pendant tes études de droit?
Ouais. Et ça m'a beaucoup plu, mais je me disais, bon, c'est cool, mais je ne vais pas en faire mon métier, ce n'est pas possible. Et
donc, t'avais, même en ayant réussi à trouver un stage en études
oui,
de droit,
c'est,
tu
c'est incroyable.
Disais, c'est pas
non,
possible.
Mais surtout mon premier, c'est un peu décousu la manière dont je le raconte, mais... J'écrivais toujours dans des journaux étudiants, j'ai fait un premier stage en journalisme en licence, puis donc en master 1, mais parce que j'ai pris en Espagne des cours dans l'Institut de journalisme, alors que bon, j'avais pas le droit, normalement j'étais en Erasmus, et que je me suis prise de passion pour le sujet qui était le conflit israélo-palestinien. Ça m'a tellement prise de passion que j'ai pris un ticket pour, vraiment littéralement un ticket d'avion pour aller en Israël, et donc en Palestine après... pour faire un reportage en n'ayant aucune idée de comment on faisait un reportage. D'ailleurs, c'était n'importe quoi, mais moi, j'avais tenté le truc. Et mon professeur de là-bas m'a dit « Ah, mais c'est vachement bien, allez, je te donne un stage dans la Radio Nationale. » Je trouvais ça très bien, je l'ai fini, c'était super, mais je continuais à me dire que c'était pas possible. Et que, de toute façon, c'était vraiment trop exigeant comme formation, comme métier, que je n'avais pas les capacités. Quoi. C'est vraiment un handicap important, je pense, quand on vient d'un milieu qui ne vous pousse pas à ça. Parce qu'on garde cette certitude qu'on ne peut pas faire le métier de nos rêves assez tard. Et c'est finalement après ce master de droit que je suis rentrée à France 24, donc la télévision internationale, en stage à la base, puis en pige.
Et donc rien à voir avec le droit finalement.
Finalement, toujours rien à voir avec le droit, mais je continue à me dire qu'il fallait quand même finir ses études et peut-être... Mais c'est quand je suis rentrée à France 24, je me suis dit, bon, peut-être que je ne fais pas les bonnes études. Et j'ai repris un master de journalisme après, enfin, il était temps. Tout en étant, en fait, j'avais déjà ma carte de journaliste. Finalement, j'étais déjà journaliste.
Donc, puis, c'est chez France 24 que tu t'es dit, en fait, c'est peut-être possible?
Mais en fait, c'est parce que, déjà, c'était passionnant. Mon stage était passionnant, parce que là, pour le coup, c'était du journalisme. Et je me suis dit, je veux rentrer en pige. Et j'ai eu une maîtresse de stage qui était super sympa et qui m'a poussée à ça. Donc, j'ai été prise en pige. Et le fait de voir que j'étais enfin payée pour faire du journalisme, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est peut-être possible. Puis là, d'être au contact toute la journée avec des journalistes dont c'était le métier, qui vivaient de ça, de voir leur parcours, je me suis dit qu'en fait, c'était possible. Et puis, entre-temps, j'ai intégré un média indépendant qui s'appelle Le Vent se lève. Je ne l'ai pas cofondé, mais c'est moi, en tout cas, qui ai fondé le pôle vidéo là-bas, qui a commencé à faire des vidéos. J'ai vu que ça marchait. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, je vais aller sur le terrain. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à être journaliste. Puis, j'ai repris des études de journaliste. Donc là, j'étais lancée. Et puis, me voilà.
Et tu ressentais vraiment le besoin de faire des études de journalisme? Pour toi, c'était nécessaire?
Ah, mais complètement. Et alors, je crache pas du tout sur ma formation, c'était intéressant et j'ai eu de très bons professeurs. Mais j'aurais pu, je pense, m'en passer tout simplement parce que j'étais déjà dans un média, j'avais déjà Bac plus 5.
Et ta carte de presse?
J'avais déjà ma carte de presse. C'était vraiment, je pense, un gros complexe d'infériorité où j'avais besoin de prouver que j'avais plein de diplômes, plein de masters et que j'avais tout à fait ma place dans le journalisme. Et c'est un peu débile avec le recul parce que du coup, je travaillais de nuit à France 24, je faisais mes piges et la journée, j'allais étudier à la Sorbonne faire mon master. C'était épuisant.
Et à 20 ans, quand tu pensais à ton avenir, à ton futur, qu'est-ce que tu ressentais ? Est-ce que tu avais peur ? Tu étais anxieuse ? Au contraire, tu avais plein de rêves et tu te disais « Waouh, ça va être magique ».
Je pense que c'était un peu un mix de naïveté et d'anxiété en même temps, parce que je pense que je ne voyais pas le monde de manière aussi pessimiste qu'aujourd'hui. Mais en même temps, je pensais même pas pouvoir réaliser mes rêves. Donc c'était un peu paradoxal. C'est-à-dire que je pensais pas que le monde était aussi pourri, mais en même temps, je me disais, de toute façon, je pourrais pas être journaliste. Voilà, va falloir trouver un vrai métier où on gagne un vrai salaire. Donc ça me faisait en même temps un petit peu peur, parce que le marché du travail notamment. En fait, j'ai intégré Le Vent se lève en même temps que France 24. Donc notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, j'ai produit les premières vidéos de reportages pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui m'a valu aussi d'être pigiste pour des médias internationaux qui cherchaient des personnes sur le terrain. Donc j'ai travaillé pour ABC, qui est la chaîne australienne. C'est complètement absurde, mais c'était très intéressant et enrichissant comme expérience. Et le mouvement des Gilets jaunes, je pense que ça a été un moment très important pour moi, parce que ça a été le moment où je me suis dit « je ne peux pas continuer à travailler pour des médias traditionnels sans m'engager ». Un minimum. Et j'étais pas d'accord avec la couverture qui était faite dans les médias plus traditionnels de ce mouvement. Je trouvais qu'elle était pas juste et qu'elle était pas. Elle couvrait pas le mouvement dans sa globalité, notamment la France des ronds-points. C'est venu plus tard, mais à ce moment-là, c'était pas le cas. Donc moi, j'ai ressenti le besoin de faire des vidéos pour montrer ce qui se passait, pour expliquer ce qui se passait et ce que je faisais, mais dans ma chambre à minuit le soir. Enfin, c'était vraiment un peu bricolé, mais ça fonctionnait. Et ça m'a donné plus de visibilité que de travailler pour le service public, finalement.
Et Blast, c'est arrivé à quel moment, du coup ? Après les Gilets jaunes ?
Blast, c'est arrivé un peu plus tard. C'est arrivé assez récemment, hein, à vrai dire. J'ai été déjà donc, journaliste pour Le Vent se lève et France 24 en même temps. J'ai intégré très brièvement le Média TV, où j'ai commencé à faire des émissions d'économie, mais vraiment juste quelques mois. Et c'est Denis Robert, donc le fondateur de Blast, qui à l'époque n'était pas Blast, qui m'a repéré sur le Média TV et qui m'a proposé de venir réaliser une interview de l'économiste Gaël Giraud. Il l'a bien aimé. Du coup, après, il m'a proposé de diriger le pôle économie à Blast. Parce que quand on vous propose à 25 ans un tel poste, même si c'était un média qui se créait, j'étais quand même flattée. Et donc, j'ai un peu hésité, mais j'ai quand même accepté. Et là, je ne regrette pas du tout parce que je vis ma meilleure vie à Blast.
Yes, ça fait plaisir à entendre. Tu as lancé un coup de gueule d'une jeune fainéante sur Twitter en affirmant que si les jeunes se plaignent, c'est parce qu'ils ont de bonnes raisons. Et tu dis que les chiffres montrent que les jeunes ne sont pas une génération de fainéants, mais qu'ils vivent dans un contexte où de nombreuses choses leur sont plus difficiles qu'à leurs aînés. Du coup, je te pose la question de qu'est-ce qui est plus difficile pour nous ?
Mais je pense que tout est plus difficile pour nous aujourd'hui en tant que jeunes, et on ne se rend pas forcément compte. Et certaines personnes plus âgées ne s'en rendent pas forcément compte. Si j'ai écrit ce post, c'est vraiment en réaction à des réflexions que j'ai entendues et qu'on m'a vraiment des commentaires qu'on m'a fait en réalité, qui me disaient que ça va quoi, on se plaignait beaucoup alors que eux, les plus âgés de leurs ans, c'était pas si facile. Et j'entends que c'était effectivement, il y avait forcément aussi des difficultés, mais je pense que là, on a passé un cap qui fait que notre génération, alors il y en a qui parlent de génération sacrifiée, je suis pas forcément complètement d'accord avec ce terme, mais en tout cas, je pense qu'on est dans une génération qui fait face à des difficultés complètement inédites, déjà sur le plan économique, parce que du coup, c'est ce que je fais à Blast. On a réalisé, je fais ma pub, mais on a fait un entretien entier là-dessus avec l'économiste David Kaila, qui là, pour le coup, donne tous les chiffres de manière extrêmement précise. Mais pour donner une vision un peu plus globale, le marché de l'emploi est catastrophique. Il y a beaucoup plus de chômage aujourd'hui qu'il y a quelques années. La qualité des emplois est détériorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de CDD, de stages, d'intérim, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, vous rentriez pour le même niveau de qualification beaucoup plus rapidement en CDI, donc avec une stabilité financière et du coup une stabilité psychologique qu'aujourd'hui, on n'a pas. Le marché de l'immobilier aussi est dégradé. Aujourd'hui, si vous voulez acheter, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais si vous voulez acheter un bien immobilier, un appartement, un premier appartement, une première maison, vous allez devoir vous endetter sur beaucoup plus longtemps pour le même salaire que par exemple nos parents. Le prix tout simplement du permis de conduire par exemple a augmenté, le contexte global a quand même de quoi nous rendre anxieux. Il y a une étude qui est parue il y a quelques jours, il me semble, sur l'éco-anxiété qui a été menée à l'échelle internationale, où le résultat de l'étude, c'est que plus d'un jeune sur deux se dit victime d'anxiété à cause du changement climatique. Et je pense bah, qu'on a bien raison d'être anxieux. Et ça, nos parents, ils n'avaient pas cette anxiété-là. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on va vers un monde qui s'effondre. Et dans les années 80-90, surtout 90, après la chute du mur, je pense qu'il y a eu vraiment une espèce de décennie un peu dorée où bah, il n'y avait même plus ce contexte de guerre froide qui était un peu stressant. Et on n'avait pas conscience des limites du néolibéralisme. Et là, nous, mais toi aussi, on sait qu'on va vers un effondrement, ou en tout cas vers un changement climatique et des conditions climatiques et d'effondrement de la biodiversité, de plein d'aspects, où on sait que c'est dramatique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui continuent à contester ça. Après, on n'est pas d'accord forcément sur la manière dont on lutte contre ça. Mais c'est quand même stressant, quoi. Je sais pas comment toi tu te sens par rapport à ça.
C'est hyper flippant, bah oui.
On est là, va falloir composer avec ça. Moi, pour ma part, ça m'empêche d'avoir des enfants. Je n'aurai pas d'enfants parce que je refuse de mettre des enfants. Enfin, faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, actuellement, je me dis que je veux pas d'enfants parce que je vois pas comment je pourrais élever des enfants dans un tel monde en étant incapable de les protéger de ce qui vient. Donc oui, je suis peut-être un petit peu stressée par mon métier.
Et comment tu les décrirais, toi, ces nouvelles générations qu'on présente souvent comme fainéantes, insatisfaites, individualistes ?
Justement, je travaille beaucoup sur le sujet en ce moment. Donc, j'ai parlé avec pas mal de jeunes. J'imagine que toi aussi, tu le fais avec ton podcast. Je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec ce constat. Je pense que les jeunes ne sont pas fainéants, pas individualistes. C'est juste qu'ils sont face à une situation qui est extrêmement compliquée. Mais même, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais même en termes d'études, c'est plus compliqué d'accéder à des études qu'il y a 20 ans. Il n'y a plus assez de place par rapport au nombre de jeunes dans les universités. Tout est plus complexe. Donc, comment on peut reprocher à une partie de la jeunesse de se replier, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo? Mais qu'est-ce qu'on nous propose comme autre échappatoire? Je pense que c'est très compliqué de rester sain d'esprit dans ce contexte. Et alors, malgré ce contexte, il y a quand même une bonne partie de la jeunesse aujourd'hui qui s'engage. Déjà, toi, tu vois, je te disais juste avant, c'est incroyable, à 23 ans, t'as créé un podcast, t'as écrit un livre. Je veux dire, c'est quand même... c'est clairement pas une jeunesse qui est fainéante, c'est une jeunesse qui se bouge. Alors après, il y a toute une partie, je pense, qui est plutôt privilégiée de la jeunesse et qui utilise ce privilège pour se bouger, justement, pour faire des projets. Et après, il y a toute une partie de la jeunesse qui est peut-être moins favorisée, mais qui a quand même une conscience assez aiguë, déjà du monde dans lequel ils vivent, de ce qu'ils peuvent faire à l'échelle individuelle, et qui a conscience des principes de domination. Et je trouve ça assez incroyable. J'ai déjà rencontré à de nombreuses reprises dans des facs, mais pas forcément à un haut niveau, des petites jeunes de 18 ans qui ont une conscience du féminisme, par exemple, qui m'estomaquent, parce que moi, à 18 ans, clairement, j'avais pas cette mentalité-là, et qui réfléchissent à leurs conditions, qui réfléchissent à ce qui les a amenés ici, qui réfléchissent à ce qui pourrait être fait collectivement pour changer le monde, entre guillemets. Et je suis extrêmement admirative de cette jeunesse-là, qui est pour moi la jeunesse qui participe aussi aux marches pour le climat, qui, malgré le contexte ultra morose et ultra déprimant, trouve le moyen d'avoir encore de l'espoir et de s'engager et d'essayer de changer les choses à plein d'échelles différentes. Et je pense qu'on sous-estime non seulement l'ampleur de cette jeunesse-là, je pense qu'il y a vraiment une bonne partie de la population qui fait ça, mais surtout le mérite qu'a cette jeunesse. Parce que dans ce contexte, trouver le moyen de faire sa place et trouver le moyen, par-dessus le marché, de s'engager pour le collectif, je trouve ça admirable. Voilà.
Et quel conseil tu voudrais leur donner à ces jeunes aujourd'hui ?
Je pense qu'il faut vraiment se battre pour changer les choses, parce que la crise climatique, c'est quand même pas de la... C'est pas des foutaises, hein. Encore une fois, c'est vraiment dramatique ce qui nous
pour
attend.
Pour toi, la crise climatique, c'est le sujet le plus important. Je sais que t'as beaucoup de combats pour lesquels tu te bats, mais...
In fine, oui. Ouais. Je pense que c'est parce que tout mène à ça. C'est-à-dire que moi, je me bats contre les dérives du néolibéralisme, mais à la fin, tout va mener à une forme d'effondrement de la société si on ne se bouge pas. Et encore une fois, il y a des jeunes qui en ont conscience, il y a des jeunes qui se bougent pour ça. Et je pense que si nous les jeunes, parce que je m'inclus quand même encore dedans,
bah oui, quand même, ouais.
Si nous les jeunes, on ne se bouge pas pour ça, mais qui va le faire? Clairement, les générations au-dessus ne semblent pas concernées. On le voit déjà par la sociologie électorale. On voit bien que les personnes plus âgées votent plus à droite pour des gens qui veulent moins changer les choses, et qu'il y a un vrai souffle qu'on peut retrouver dans cette jeunesse, et que cette jeunesse peut changer les choses réellement, peut se mobiliser de manière de plein de façons différentes. On n'est pas obligé de se mobiliser de façon politique. On n'est pas obligé de se mobiliser même, je sais pas moi, à la fac. Il n'y a pas que ça dans la vie, juste de créer sa petite entreprise, de créer, qui respecterait des normes écologiques et éthiques, de créer des projets de, je sais pas moi, d'agriculture biologique. Enfin, il y a plein de petits projets auxquels je peux penser qui sont faits à l'échelle individuelle ou tout simplement même ces jeunes. Il y avait un reportage sur France 24 justement il y a pas si longtemps à ce sujet, sur ces jeunes qui se mettent en colocation et qui essaient de vivre, comment dire, une nouvelle façon de qui essaient de vivre le collectif de manière plus écologique. Mais ces jeunes-là, même s'ils sont perdus au fin fond de la Lozère, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Ils essaient d'expérimenter de nouvelles façons de vivre ensemble. Et c'est ultra important. Et pour moi, c'est une forme de... C'est une façon de combattre aussi le système actuel. Mais en tout cas, j'ai juste envie de dire, moi, la jeunesse, n'acceptez pas le système tel qu'il est fait actuellement. Et vous pouvez vraiment faire la différence déjà à l'échelle individuelle.
Et heureusement, au milieu de tout ça, on a aussi des gens qui nous inspirent. Il y a une citation, je crois que tu aimes bien, qui est de Kundera dans son livre L'insoutenable légèreté de l'être. Ah oui. Et la citation, c'est...
Mis sous une photo Instagram, comme une grosse Instagrammeuse.
Et j'ai beaucoup aimé, c'est « Notre vie quotidienne est bombardée de hasards, plus exactement de rencontres fortuites entre les gens et les événements, ce que l'on appelle les circonstances. » Est-ce que toi, tu as une circonstance, une coïncidence qui a marqué ta vie jusqu'à aujourd'hui ?
Bah, je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Je ne veux pas rester que sur le professionnel, mais aujourd'hui, moi, ma vie, c'est le journalisme. Clairement, je fais ça du matin au soir, tous les jours, toute l'année, tout le temps. Donc, peut-être que j'en fais un peu trop, mais pour l'instant, c'est ça qui régit ma vie. Donc, forcément, ma rencontre, pour moi, c'est une rencontre journalistique. C'est vraiment ce coup de pouce de la part de ce professeur espagnol. C'est vraiment le mec, j'arrive dans sa classe, je parlais même pas espagnol correctement, j'étais dans une classe au-dessus de moi, je suis pas du tout censée être là, enfin, y a rien qui va. Déjà, c'est un immense reporter espagnol, il devrait me dire dégage, mais non, il me dit ok, tu veux être dans ma classe, très bien. Je lui fais mon reportage, qui en plus est pourri, enfin, je suis certes allée en Palestine, c'était très bien, mais c'était franchement mal fait. Et au lieu de se dire qu'est-ce qu'elle fout cette petite française, et ben il me donne, c'est vraiment lui qui m'a dit mais attends, t'es faite pour être journaliste, va à la radio nationale, j'appelle mon pote qui est directeur de la radio nationale, c'est comme si ici quelqu'un appelait le directeur de Radio France, enfin c'est fou, vas-y. Et du coup je suis allée à ce truc, mais ce qui était fou c'est que je parlais même pas bien espagnol, j'étais pas bilingue, et en fait c'est lui qui a tout déclenché, c'est à partir de là que je me suis dit ah mais en fait peut-être que je peux être journaliste. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je fais ce métier que j'adore de tout mon être.
C'est un hasard pour toi ou pas ?
Je ne sais pas si c'est un hasard, parce que je me suis quand même fait chier à aller dans cette classe de journalisme. Mais en tout cas, c'est un... Comment dire ? C'est une chance qu'il ait eu cette attitude-là, parce que ce n'est pas tous les professeurs qui vous aident de cette façon. Et ça peut changer la vie de quelqu'un, donc c'est... C'est en tout cas, lui, ce qu'il a fait, c'est énorme pour moi et il n'était pas du tout obligé de le faire. Mmh. Voilà.
Il y a quelque chose d'assez drôle et paradoxal. Je me suis inspirée du numérique pour cette question, tu vois. Tu as écrit encore un post sur Instagram. J'aime beaucoup tes petits posts, je les ai tous lus. J'étais là, c'est génial ce qu'elle écrit. Et ça m'a beaucoup parlé. Tu questionnes l'art d'écrire et l'importance pour toi de garder un stylo et un carnet là où les notes de téléphone nous appellent. Et tu dis qu'aucune story Instagram ne pourra aussi bien retranscrire l'intimité d'un voyage que des pages cornées.
Ouais.
Et tu poses une question. Suis-je la seule à me comporter comme une personne de 85 ans ou certains d'entre vous sont-ils aussi bloqués dans le temps ? Est-ce que c'est ce que tu ressens, d'être bloqué dans le temps ?
Oh, je suis vraiment un gros cliché sur Paradoxe.
Pourquoi ?
Parce que c'est vraiment terrible. Ça fait vraiment le cliché de la journaliste. Oui, j'écris dans mon carnet... des tours, des conversations.
C'est pas cliché, je te rassure, c'est exactement la même chose. J'ai toujours un carnet, je peux pas écrire sur un ordi ou un téléphone, c'est tellement moins glamour.
Alors bloqué dans le temps, non, parce que je pense que j'appartiens vraiment à ma génération.
Ouais.
Mais je dois dire que j'ai quelques travers, notamment sur la musique. J'aime que la musique des années 60-70. Je suis complètement bloquée dans le temps là-dessus. Je suis complètement bloquée dans le temps, effectivement, c'est cette question du papier. Je continue à vouloir absolument utiliser du papier. Je pense que je ne suis pas la seule, mais je résiste totalement à la Kindle et à la... Je veux des livres papier.
Oui.
C'est... En plus, c'est même pas écolo, donc c'est complètement contradictoire. Ouais. Mais j'adore cette... Je sais pas si c'est un côté vintage, mais en tout cas sur le côté carnet d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais justement depuis que j'ai 7 ans, j'écris tous les jours.
Tous les jours ?
Tous
sans
les
exception.
Jours. Sans exception. Peut-être il y a eu quelques jours où je l'ai pas fait, mais vraiment dans l'ensemble, quasiment tous les jours, un journal intime. Je devrais pas dire ça, il y a quelqu'un qui va vouloir les voler au bout d'un moment pour trouver mes enquêtes.
Non,
et j'écris vraiment, j'ai des piles entières de carnets et j'écris tout. tous les jours au moins un petit peu, comme si j'avais peur d'oublier ce qui se passait. Et c'est aussi merveilleux pour comprendre le point de vue qu'on avait à un certain moment et pour comprendre l'évolution qu'on peut avoir, même dans certaines, je sais pas, des relations amoureuses tout simplement, ou enfin de comprendre comment on voyait les choses, pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Et quand j'essaie de comprendre je sais pas moi, n'importe quelle rupture, n'importe quel drame de vie, bah ça m'aide beaucoup d'avoir ces carnets pour avoir un peu du recul. Et aussi pour même suivre ma... Bah, par exemple, tout le Covid, j'ai écrit toute la pandémie et j'ai retrouvé des carnets où je dis « Il y a un virus en Chine, ça ne m'inspire rien de bon !» Et là, maintenant, je me dis « Oh putain, ouais, ça fait bizarre de lire ça !» Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais en tout cas, j'ai cet amour du papier et du crayon, clairement.
Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé à te construire, d'écrire ?
Énormément. Énormément. C'est... Je vois pas de psy, mais j'ai l'impression d'être mon propre psy quand je fais ça. Ça m'aide vraiment à comprendre, c'est tellement bateau, mais non, mais qui je suis, ou en tout cas comment j'évolue. Et aussi de mettre en perspective, par exemple, quand je relis des carnets et que je vois, j'écris que c'est impossible d'être journaliste, ou j'écris parfois que mon plus grand rêve, ce serait fou d'être journaliste. C'est incroyable que j'écrive ça. Et au final, j'y arrive, enfin... Maintenant, j'ai l'impression que c'est pas du tout un rêve et j'ai l'impression d'avoir pas du tout atteint mes rêves et qu'il reste un milliard de trucs à faire, mais ça m'aide à relativiser. Quand je relis ça, je me dis « Oh, bon, ça va, en fait, c'est pas si mal. » Ou certains voyages, quand j'étais plus jeune, je me disais « Oh, j'aimerais tellement aller à l'autre bout du monde. » Et au final, maintenant, je les ai faits et ces voyages, c'est beaucoup plus accessible. Et parfois, ça m'aide à me rendre compte de ce que j'ai accompli et à pas être aussi insatisfaite, chronique, ce que j'ai tendance à être quand même.
Donc t'arrives à être fière de toi quand même, à te dire « Ok, là, c'est bon, je suis journaliste, je voulais l'être et j'ai réussi. »
Quand je lis ces trucs-là, oui.
Ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus.
Ça pourrait être mieux. Clairement, je suis toujours... D'ailleurs, je suis très insatisfaite de tout. Quand je vois mes trucs, je vois toujours dans mes interviews ce qui va pas, je vois toujours dans mes reportages ce que j'aurais pu rajouter ou enlever, ou je vois toujours la coquille, je vois toujours... Même quand les trucs marchent, c'est quand même assez incroyable, même quand il y a n'importe quel reportage que je fais qui marche ou un tweet, ou... j'ai toujours la peur que quelqu'un découvre qu'en fait je me suis trompée quelque part ou que... Donc je suis jamais sereine en fait sur ces trucs là c'est très bizarre.
Et tu travailles ou pas, ou tu juste apprends à vivre avec?
C'est paradoxal parce que oui, j'y travaille, parce que quand même il y a un moment il faut quand même se calmer, donc effectivement, notamment en relisant mes carnets, mais c'est ça qui me motive. Parce que si demain j'étais juste trop satisfaite de moi, j'ai l'impression que c'est ça qui m'aide à progresser. Et même dans mon travail, je demande toujours à mes supérieurs, je demande toujours à mes confrères des conseils. Et je suis vraiment très demandeuse de retours constructifs sur ce que je fais. Et je pense que ne pas être satisfaite tout le temps de ce que je fais, ça m'aide aussi à avancer et à progresser.
Est-ce qu'il y a une chose, ou plusieurs d'ailleurs, que tu n'as pas lu dans tes cahiers d'école et que tu aurais aimé, apprendre plus tôt ?
J'ai envie de dire quand on veut, on peut, et c'est pas vrai. Mais en tout cas, qu'on peut quand même essayer de se donner les moyens d'accomplir ce qui nous fait rêver, et que parfois, on se les donne pas assez. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas quand on veut, on peut, parce que vraiment, ça dépend de tellement de facteurs extérieurs que parfois, il faut pas culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. C'est pas qu'on n'a pas assez voulu. Mais dans mon cas, par exemple, j'aurais beaucoup aimé... avoir directement la confiance nécessaire pour me lancer dans les études qui me plaisent. Où j'aurais beaucoup aimé qu'on m'explique je peux même essayer d'avoir un concours. Moi, dans mon cas, j'ai même pas passé un seul concours. J'ai passé le concours de Normal Sup en pensant que de toute façon, c'était mort. Donc, je l'ai même pas passé sérieusement. Je me suis inscrite à Sciences Po et je n'ai même pas passé le concours. C'est comme si j'avais toujours eu peur que de toute façon, louper le truc et que de toute façon, j'avais pas les capacités. Donc, j'y allais même pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas assez à l'école. En tout cas, qu'on ne nous enseigne pas assez dans les écoles les plus défavorisées. Parce que c'est, pour moi en tout cas, toujours une question aussi de classe. Quand on va dans les établissements les plus privilégiés de France, on vous enseigne très tôt à avoir cette assurance et cette confiance en vous. Et je pense qu'elle manque à beaucoup d'élèves.
Comment on peut l'enseigner, cette confiance ?
Déjà, en investissant dans l'éducation nationale, on revient toujours à des questions économiques, mais il y a certaines écoles qui tout simplement manquent de moyens. Donc quand les professeurs sont occupés à faire la police et qu'ils peuvent même pas enseigner correctement leur matière, ils risquent pas de donner confiance à qui que ce soit. Et ensuite, je pense que c'est vraiment du suivi pédagogique à l'école où on devrait suivre individuellement les élèves, essayer de réellement comprendre leurs besoins, leur donner les moyens d'accéder tout simplement à ce dont ils rêvent. Et je ne sais pas si tu as déjà vu un conseiller d'orientation.
Non, jamais.
Mais parfois, c'est complètement lunaire ce qu'ils vous disent, les conseillers d'orientation. On vous brise des carrières à 17 ans. Et c'est terrible. Et puis après, il y a une deuxième chose, je pense, qu'on pourrait faire pour que les jeunes aient plus cette confiance et aussi qu'ils sachent tout simplement ce qu'ils veulent, c'est ne arrêter avec ce système de « il faut faire des études directes à 18 ans
ouais. ».
Nous, on a ce système, alors c'est plus post-bac maintenant, c'est Parcoursup, mais en gros, vous êtes pénalisé si vous avez un an de trou, ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Et en fait, à 18 ans, bah, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut et on se lance dans des études. Alors moi, ça a été mon cas où franchement, je suis allée là parce que bah, voilà, c'était sur la liste, ça avait l'air sympa, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et c'est dommage parce que je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui pourraient expérimenter, qui pourraient voyager, qui pourraient faire des stages, qui pourraient faire des apprentissages, qui pourraient faire autre chose pendant une année et avoir une idée plus précise de ce qu'ils veulent et perdre moins de temps. Et je pense que ça, c'est un vrai travers de notre système éducatif. Voilà.
Ça revient toujours à ça. Tu finis tes réponses par
oui. Voilà.
Des questions un peu plus philosophiques. La vie, en général, c'est quoi pour toi ?
Cette question était extrêmement difficile. Ouais. Et je n'entends absolument pas y répondre de manière exhaustive. La vie, pour moi, Salomé Sakié, pour l'instant, c'est pour moi d'essayer de faire la différence. Dans le collectif. Je dirais que c'est de, en gros, quand je suis sur mon lit de mort, de me dire que j'ai quand même laissé une trace positive quelque part. C'est hyper prétentieux comme approche de la vie, parce que peut-être que je n'y arriverai pas du tout. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de me dire que je laisse un peu une... Mais je pense qu'il y a un truc égotique là-dedans, mais de laisser une empreinte, de me dire bah, j'ai fait le entre guillemets quelque chose de bien, ou en tout cas j'ai tout fait pour améliorer les choses. Mais je me demande si je vais garder cette philosophie toute ma vie et qu'il n'y a pas un moment où je vais me dire « bon, fuck, maintenant, je vais juste me faire plaisir ». Là, je ne suis pas vraiment dans l'hédonisme aujourd'hui. Je suis plus dans une approche très politique, finalement, de la vie, qui est de changer les choses à l'échelle, à l'échelle collective. Je ne sais pas si ça va durer. Et après, évidemment, j'essaie quand même de profiter des petites choses, des petits plaisirs. Parce que sinon, ce serait quand même vachement noir. et de pas me prendre au sérieux. Mais je pense que ça va. Enfin, j'ai pas la sensation de prendre des trucs trop au sérieux pour l'instant. En tout cas, de pas me prendre, moi, trop au sérieux. Et je pense que c'est très important.
Et ça serait quoi, tu nous disais, me faire plaisir. Ça serait quoi te faire plaisir ? Elle ressemblera à quoi une vie où tu serais...
Alors, pour moi, c'est déjà plaisir. De rire.
Ouais.
Là, je sais que ça, c'est pas évident, là, tout de suite, quand je vous parle de politique, mais à côté, je fais quand même beaucoup de... Bah oui, je fais beaucoup de blagues, j'aime bien rire, j'aime bien la dérision. C'est juste que c'est très paradoxal, parce que dans mon métier, je peux pas être comme ça publiquement, parce que sinon, ça va entacher mon image de journaliste, crédible.
Ouais,
d'ailleurs, j'aimerais beaucoup mettre de l'humour un petit peu, parfois, dans mes productions, mais je parle de sujets tellement graves... Et j'essaie de dénoncer des choses qui sont tellement graves que si je faisais de l'humour en même temps, je pense que ce serait très étrange et malvenu. En tout cas, ce serait compliqué d'être crédible. Mais à côté, je pense qu'un de mes plus grands plaisirs, c'est vraiment de rigoler, tout simplement. Et c'est vraiment pas du tout une question de faire la fête. Hein. C'est juste de se marier avec mes amis, quoi. Et dans des situations où parfois, on rigole de trucs, mais même entre journalistes, où c'est tellement grave ce dont on parle qu'il faut lâcher et on fait des blagues horribles que je peux absolument pas retranscrire maintenant. Et après, bah oui, bah comme tout le monde, les petits plaisirs de... Je sais pas, moi, c'est mon café le matin, c'est un grand moment sacré de la journée. Bon, c'est lié à une addiction, évidemment, mais pour moi, c'est le moment où il faut pas me parler, je ne fais rien, je n'écoute rien, je suis juste là à savourer mon café et c'est peut-être un des meilleurs moments de ma journée. Voilà.
Qu'est-ce qui te fait sentir la plus libre, le café du matin ?
La plus libre ? Bah, clairement, les voyages. Alors, maintenant, j'essaie vraiment d'adapter ça à la crise écologique. Donc, j'essaie de moins prendre l'avion, en tout cas pas pour les trajets où on peut faire autrement. Et à chaque fois que je suis en voyage dans un pays que je connais pas, je sais pas pourquoi, mais c'est le moment où je me sens la plus libre. Et après... clairement, moi, aujourd'hui, ce qui me fait me sentir libre, on revient toujours au journalisme, mais c'est de travailler pour un média qui ne me contraint pas sur le plan éditorial, de manière injustifiée en tout cas. Et ça peut paraître bateau, pour les gens qui nous écoutent, peut-être ils vont se dire, bah évidemment, elle est journaliste, elle écrit ce qu'elle veut. Ce n'est absolument pas donné aujourd'hui d'écrire ce qu'on veut quand on est journaliste. Mais alors vraiment absolument pas. Et c'est vrai. Tellement précieux de pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me contraint. C'est d'ailleurs, j'ai jamais autant aimé mon métier que maintenant, parce que là, je suis vraiment libre de mon format, libre de ce que je veux dire, des sujets que je veux traiter. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas retrouvé, en tout cas dans d'autres médias avant. Et c'est, mais c'est le, je pense, que c'est le fantasme de beaucoup de journalistes. C'est un fantasme, c'est un fantasme absolu quand on est journaliste de pouvoir faire ce qu'on veut. Et c'est, moi, c'est merveilleux pour moi.
Ouais. Oh, t'as terminé ta phrase par mon mot préféré, merveilleux.
C'est merveilleux.
Mais écoute, Salomé, merci beaucoup. Est-ce que t'as un petit mot de la fin à nous partager?
C'est dur. Si, j'ai envie de partager une personnalité qui m'inspire.
Ah, yes.
Dont je parle beaucoup. Mais parce que je trouve... Moi, c'est le truc qui me fait aussi me lever le matin, de savoir que cette personne existe. Mais j'espère que cette personne, d'ailleurs, ne me décevra pas un jour. Mais il y a une députée aux États-Unis qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez, qui a fait parler d'elle récemment avec sa robe Text to Reach, qui est vraiment pour moi l'espoir de notre génération. Qui est l'espoir, vraiment, mais à tous les niveaux. Alors, je suis absolument pas objective parce que probablement que je l'idéalise, mais je trouve cette femme absolument incroyable. Mais c'est, pour moi, c'est une héroïne. Vraiment, elle veut changer les choses et elle arrive à changer les choses, mais à une échelle et avec une pression qui sont incroyables, tout en restant très proche, je pense, de ses valeurs et qui est une stratège en plus hors pair. Parce que elle, là, c'est cette histoire de robe Tax the Rich, ça a été très critiqué. Donc elle est arrivée au gala de New York, elle a porté une robe où il y avait inscrit Tax the Rich, alors que c'est pas vraiment l'endroit, quoi. Et grâce à ça, elle a fait un pic incroyable dans les recherches Google de gens qui se demandaient pourquoi il fallait taxer les riches. Je trouve ça fou. Et elle est, pour moi, c'est une lumière. En tant que journaliste, je sais que mon idole ne devrait pas être une politique, mais je trouve qu'elle est bien plus qu'une politique. Elle est vraiment le visage, pour moi, d'une nouvelle génération. En tout cas, ce qui, je l'espère, sera la génération de demain.
Merveilleux. Waouh, wow, on va finir là-dessus. Trop beau. Bah merci Salomé.
Bah merci à toi pour l'invitation.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu, et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.